France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Servane de Pastre.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Les élections présidentielles se tiennent en ce moment. En Côte d'Ivoire, 9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils sont partagés entre joie et résignation. Alors que le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, devrait l'emporter, nous serons sur place en début de ce journal. Les syndicats de travailleurs de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle se sont mobilisés aujourd'hui. Ils dénoncent les livraisons de matériel militaire par la France à Israël, livraison qui transite justement par l'aéroport. Et les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale sur le budget 2026. Les députés ont rejeté cet après-midi en première lecture le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Les électeurs de Côte d'Ivoire votent en ce moment pour élire leur président. Le scrutin se déroule dans le calme et sous haute sécurité. Un couvre-feu a été établi hier soir dans la capitale Yamoussoukro. Le grand favori de ces élections, c'est Alassane Ouattara, le président sortant. Âgé de 83 ans, il s'agirait de son quatrième mandat. L'opposition est divisée. Ses deux principaux leaders ont été écartés du scrutin et les électeurs, eux, sont partagés. Notre envoyé spécial à Abidjan, Omar Ouaman, est allé à leur rencontre.
Des électeurs qui ont globalement boudé les urnes, notamment dans les bastions de l'opposition, comme ici, dans ce bureau de vote du quartier populaire de Blokos.
Le calme, c'est le boycott. Il n'y a pas d'engouement parce que ça n'intéresse personne. Depuis 8 heures, les bureaux de vote sont ouverts. Malheureusement, c'est le vide total.
Pas de file d'attente, encore moins de suspense. Une mascarade pour cet habitant venu constater l'ampleur du boycott.
Je ne voterai pas, ça me dégoûte. C'est du braquage électoral. Le boycott, c'est un message fort pour dire qu'on est contre le quatrième mandat. Trop, c'est trop.
C'est une toute autre ambiance qui règne dans les quartiers favorables au président Ouattara. Ici, on vote ado. Le surnom du président sortant, les mots qui reviennent sont paix et stabilité. La guerre civile de 2010-2011 est dans tous les esprits.
On ne veut pas voir ce qui s'est passé dans le passé. Non, non, non. Nous, on était ici en 2010, on a vu ce qu'on a vécu. On ne peut pas expliquer. Moi, j'ai perdu des amis. Pourquoi? Plus jamais ça. Nous, je voulais entendre ça. On ne veut plus voir ça. Vivons la paix.
En réalité, le seul adversaire sérieux d'Alassane Ouattara, c'est le taux de participation, l'un des enjeux clés de ce scrutin.
Omar Ouaman, envoyé spécial de France Culture à Abidjan avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Les négociations entre délégations chinoises et américaines se sont achevées à Kuala Lumpur en Malaisie. Elles doivent reprendre demain dans la matinée. L'objectif, préparer la rencontre jeudi prochain entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En marge du sommet de l'ASEAN, les deux dirigeants vont tenter de trouver un compromis sur un accord commercial après les menaces de Donald Trump. Le président américain dit vouloir imposer des droits de douane de 100% sur les biens chinois à partir de samedi prochain. Cela fait suite au contrôle renforcé de Pékin sur ses exportations de terres rares. Le président américain qui est en route en ce moment vers la Malaisie, première étape d'une tournée de plusieurs jours en Asie. Plusieurs mouvements palestiniens, dont le Hamas, se sont réunis en ce moment au Caire pour décider de l'avenir de la bande de Gaza 15 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la région. Les groupes palestiniens se sont accordés hier sur le fait de confier la gestion de l'enclave à un comité de technocrates. Ils veulent aussi redonner du poids à l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Les explications de Lucas Lazo à Jérusalem pour France Culture.
Trois lettres que l'on pensait reléguées au livre d'histoire. Le cessez-le-feu à Gaza donne un nouvel élan au mouvement national palestinien divisé entre tendances rivales. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, avait été fondée en 1964 pour donner un cadre institutionnel à la question palestinienne et obtenir un siège au Concert des Nations. L'OLP s'est longtemps confondue avec l'aura de son plus célèbre dirigeant Yasser Arafat, grâce à qui elle obtient en 1974 le statut d'observateur aux Nations Unies. À partir des années 80, l'organisation en exil est contesté par des tendances plus radicales issues des camps de réfugiés. C'est ainsi qu'émerge le Hamas qui n'a jamais adhéré à l'OLP. Après les accords d'Oslo de 93 restés en grande partie lettre morte, l'OLP a peu à peu perdu de son influence. Chassée de Gaza par le Hamas en 2007, elle a été marginalisée par une autorité palestinienne dont le vieillissant Mahmoud Abbas concentre désormais tous les pouvoirs. Sur les ruines de Gaza, le mouvement national palestinien se cherche un nouveau cap. De nombreux Palestiniens placent leurs espoirs dans la libération de Marwan Barghouti, figure capable peut-être d'unir les factions et pourquoi pas de raviver l'OLP.
Pendant ce temps-là, une frappe israélienne a tué une personne au sud du Liban, une autre a été blessée. Selon le ministère de la Santé libanais, si un cessez-le-feu a été décidé fin novembre entre le Hezbollah et Israël, ce genre de frappe est régulier. Ces opérations israéliennes indignent en France, notamment les syndicats de travailleurs de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Ils dénoncent la livraison de matériel militaire par la France à Israël, livraison qui transite par l'aéroport. Une mobilisation était organisée en début d'après-midi dans l'un des terminaux de Roissy. Delphine Schiltz, vous y étiez.
Les salariés ne veulent pas être complices du génocide à Gaza, peut-on lire sur une banderole devant le terminal 2. Du matériel militaire transite par l'aéroport Charles de Gaulle, alerte le délégué syndical Kamel Brahmi, chasuble rouge, floqué CGT 93.
Dernièrement, le Premier ministre, M. Le Cornu, a réaffirmé qu'il n'y avait pas de livraison d'armes françaises à l'État israélien. Et nous, toutes les semaines, on a des informations contraires où il y a du matériel militaire, pas des armes à proprement parler, mais des composants qui servent à construire, à fabriquer des armes qui passent par la France ou qui sont fabriquées en France et acheminées via la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle.
Des expéditions de matériel réalisées dans une totale opacité et à l'insu des travailleurs, dénonce encore le syndicat.
Alors, les salariés, on les informe déjà parce qu'ils ne sont pas au courant. Il faut savoir aussi que les douaniers, normalement, ont la possibilité de regarder un certain nombre de choses et que là, on leur interdit d'appliquer la plénitude de leurs prérogatives sur ces histoires de contrôle des colis à destination d'Israël.
Et si un cessez-le-feu a été signé début octobre entre Israël et le Hamas, ça ne change pas la donne pour Loïc Fournil de l'ONG Stop Arming Gaza.
C'est pas parce qu'il y a une paix que tout s'arrête, et au contraire, c'est vraiment le moment où Israël peut dire nous avons testé pendant 2 ans des nouvelles armes sur les Palestiniens, et donc elle va mettre sur le marché Israël plein d'armes. Donc d'autant plus aujourd'hui, il faut exiger que la France n'achète pas de matériel militaire à Israël et ne lui en vende pas.
Selon un rapport du ministère des Armées rendu public en septembre, l'année 2024 a été une année exceptionnelle pour les exportations d'armes françaises, y compris à destination d'Israël. 27 millions d'euros de commandes en 2024, une somme inégalée depuis 2017.
Delphine Schiltz, en Irlande, la candidate de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle. Son unique rivale du parti centriste a reconnu sa défaite cet après-midi. En France, les députés poursuivent l'examen du budget 2026. Ils ont notamment approuvé en première lecture la défiscalisation des pensions alimentaires pour ceux qui en bénéficient. Ce seraient ceux qui versent les pensions qui seraient taxées. Actuellement, c'est l'inverse. Les députés qui ont également rejeté le gel du barème de l'impôt sur le revenu, Marion Ferrer.
C'est la solution la plus radicale pour laquelle les députés ont opté, le rejet total du gel du barème de l'impôt sur le revenu, là où certains partis politiques voulaient protéger uniquement les plus fragiles et geler en revanche les tranches les plus hautes. Grâce à une large coalition des députés de droite, d'extrême droite, mais aussi une partie des macronistes et des insoumis, il n'y aura donc pas d'année blanche comme souhaité par le gouvernement.
Pour 226 contre 104, l'Assemblée nationale a adopté.
Un amendement porté par le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, qui a fustigé dans l'hémicycle la mesure défendue par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin.
L'impôt sur le revenu est l'impôt par excellence qui frappe la France qui travaille et la France qui a travaillé toute sa vie. Et donc nous voulons un signal qui soit clair. On ne fait pas mettre à nouveau à contribution toujours les mêmes. C'est l'État qui fait les efforts en augmentant l'économie sur sa propre dépense.
Pour rappel, cette mesure aurait permis à l'État de récupérer 2 milliards d'euros de recettes car elle impliquait une hausse des impôts sur le revenu pour plusieurs millions de contribuables. Elle aurait aussi conduit 200 000 foyers supplémentaires à payer cet impôt, des ménages jusqu'ici exonérés car considérés comme les plus modestes.
Marion Ferrer, les débats dans l'hémicycle qui prennent du retard, les députés ont encore quelques 3 000 amendements à examiner, parmi eux la taxe Zucman, cet impôt sur les au patrimoine demandé par la gauche. Mais le temps presse. Avec ce budget, l'objectif du gouvernement, c'est de faire passer le déficit de la France sous la barre des 5% du PIB l'année prochaine et rassurer ainsi les investisseurs. Alors qu'hier, l'agence de notation Moody's a maintenu la note souveraine de la France, mais en l'assortissant d'une perspective négative. Avant elle, 3 autres agences ont dégradé leur notation. La France est menacée d'étouffement progressif, alerte le gouverneur de la Banque de France, Geoffroy Villeroy de Gallo. Il cite notamment notamment le poids croissant des intérêts de la dette. N'oubliez pas de régler vos montres cette nuit et vos horloges, car on change d'heure. On passe à l'heure d'hiver, on perd donc une heure. La météo de demain, pour finir, le ciel sera toujours très nuageux avec quelques éclaircies, du vent également sur les côtes de la Manche et dans le sud-est. Au meilleur de la journée, il fera 8 degrés à Aurillac, 9 degrés à Metz, 13 à Tarbes et 18 à Ajaccio. Merci à Martin Descloseau pour la réalisation de ce journal. Merci également à Ludovic Augier qui était à la technique.